Bonsoir à tous. La tenue du dialogue politique se précise. Dans les couloirs du Palais du Peuple, les députés nationaux évoquent la date du 15 novembre prochain. Si dans la majorité au pouvoir, l'on est d'accord avec ce principe, dans l'opposition, les voix sont discordantes quant à l'opportunité et à l'ordre du jour. Nous en parlons dans près d'un quart d'heure. Et puis Kinshasa abrite depuis mercredi de cette semaine le séminaire de cadrage des missions et renforcement des capacités en faveur des commissaires spéciaux des nouvelles provinces et leurs adjoints. Enjeux perspectives dans la seconde partie de cette édition. Ce sont là les deux thèmes de la tribune de presse de ce vendredi 6 novembre 2015. Et les invités dans ce studio sont Thierry Bongo, journaliste indépendant basé à Kinshasa. Thierry, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Jean-Jeff Mwanza, directeur général de l'agence de presse Vision et Info. Jean-Jeff, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Et Gaston Mouchid, directeur général de la radio communautaire Manika, émettant à Kolwezi dans l'ex-province du Katanga, mais présentement il est à Lubumbashi. Gaston Mouchid, bonsoir.
Bonsoir, c'est la radio-télévision Manika, pas communautaire.
Radio-télévision Manika, merci pour cette correction et merci d'avoir choisi la tribune de presse pour mieux comprendre l'actualité de la RDC. Et pour commencer, voici la revue de presse qui porte la signature de Kélin Kouté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Le dialogue national est pratiquement le titre à la une des tabloïds kinois cette semaine. Congo News, Le Phare, La Prospérité. On découvre des articles qui rapportent l'opposition de plusieurs acteurs et même partie de l'opposition à tout dialogue politique en RDC. Mais de l'autre côté, il y a des articles comme par exemple la une de Forum des As qui inspire à un certain optimisme, je cite, retombé de la réunion interinstitutionnelle. Enfin, le dialogue se dessine. Au journal de l'Imité Industriel, de poursuivre. Réunis autour du Raïs, les animateurs des institutions de la République conviennent de l'impératif de rechercher un consensus pour des élections apaisées. Au quotidien, Le Phare de faire remarquer qu'il faut maintenant s'attendre à connaître le lieu, le jour du fameux dialogue, mais également la résolution de la question des médiateurs. Pour le journal Congo News, le dialogue politique en RDC n'est plus qu'une question de jour. Le premier parti de l'opposition, l'UDPS et la majorité présidentielle, se sont mis d'accord, le dialogue aura pour objectif de remettre la primature à l'UDPS. Et selon ce journal, la majorité aurait un faible avoué pour Jean-Joseph Mukendi. Fin de citation. Dialogue, coulage de la CENI, nomination des commissaires spéciaux, Joseph Olengankoy et Ventre le Boa, titre la référence plus. Pour sauver le processus électoral, Olengankoy lance un appel à la communauté internationale pour aider les Congolais à ramener l'argent des dirigeants congolais logés à l'étranger afin de financer les élections. Changeons de chapitre pour parler des commissaires spéciaux. Les regroupements politiques dénommés la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition, composée notamment de l'UNC, du MLC et de l'ECD, refusent de reconnaître les commissaires spéciaux récemment nommés pour gérer les provinces et décident donc de saisir la Cour constitutionnelle pour trancher. L'information est depuis quelques abondamment reprise par les médias de la capitale, le cas du journal La Prospérité et Le Phare. Le palmarès nous informe qu'avant de rejoindre leur province d'affectation, les commissaires spéciaux mis au pas par le gouvernement. Au journal de poursuivre que trois jours durant, les commissaires spéciaux vont apprendre comment faire démentir toutes les mauvaises prédictions sur le processus du découpage territorial. Enfin, le commissaire spéciaux à l'école du savoir nous renseigne le quotidien à l'avenir. Ces derniers sont appelés à rendre plus visible la vision de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État.
Dans l'actualité de cette semaine, il y a ce match retour comptant pour la finale retour de la Ligue des Champions de la CAF entre le tout-puissant Mazembe et l'USM d'Algérie. La mobilisation s'intensifie sur toute la ville de Lubumbashi, en particulier à l'intérieur de l'ex-province de Katanga. Le président du club louchois a lancé dans la presse mercredi un message à tous les supporters de Mazembe et les sportifs en général de soutenir son équipe. Alors Thierry Bongo, quelle lecture faites-vous de cette mobilisation?
Bon, je pense que, à mon sens, Moïse Katumbi est en train de jouer un grand pari sportif, dans le sens que Mazembe renoue avec la finale de la plus prestigieuse compétition des clubs africains l'échiquier. Bon, on peut dire que Mazembe c'est un habitué, c'est un grand club et il fait la fierté du pays. Aujourd'hui, il faut mettre un petit peu de côté tout ce qui fait coloration politique, parce que voilà, Le nom de Moïse Katumbi est associé à plusieurs événements politiques actuels, mais aujourd'hui, je crois que l'enjeu est plus sportif que politique. Bien sûr, je sais que en tant que politique, il peut toujours en tirer certains profits, mais pour ce qui nous concerne, nos populations, nous estimons que Mazembe, c'est notre fierté. Nous ne pouvons que le soutenir. En soutenant Mazembe, nous soutenons une sorte d'icône nationale dans le monde sportif.
Et rapidement, quelle chance donnez-vous au tout puissant Mazembe?
Je pense que Mazembe a fait l'essentiel au niveau de l'Algérie et que le match retour, il peut se mettre dans les faveurs du public. On peut estimer qu'il va gagner largement parce que Mazembe à domicile carbure très fort, commence très fort et marque beaucoup de buts. Et nous souhaitons qu'il puisse faire de la même manière qu'ils le font tout le temps. Tout en tenant compte que l'USM Alger est une équipe aussi qui s'est bien comportée tout au long de la compétition à l'extérieur. Donc un match à prendre au sérieux et Mazembe, nous souhaitons qu'il puisse gagner.
D'accord, merci. Alors Jean-Jeff, comment analysez-vous le parcours du tout-puissant Mazembe dans cette campagne?
Non, un très bon parcours, hein. Je vais parler comme Thierry. À mon avis, Mazembe, l'arrivée de Mazembe en finale ne me surprend pas. Parce que nous savons que Mazembe a toujours été une très bonne équipe. L'année dernière, ils étaient arrivés jusqu'en demi-finale, à la porte de la finale. Aujourd'hui, ils sont à finale. Ce n'est pas pour moi une surprise. Et c'est juste comme a dit Thierry, on doit arrêter de politiser l'affaire. Mazembe est en finale. On regarde la personne de Moïse Katumbi, son président, qui a aussi de sérieux problèmes politique parce que venant de quitter le pouvoir, venant de quitter la majorité présidentielle, on estime que la victoire de Mazembe va propulser encore une fois de plus Moïse Katumbi. C'est là où je me dis on doit arrêter de penser de la sorte parce que Mazembe c'est la République démocratique du Congo qui joue. Au stade, on ne verra pas le drapeau de Mazembe, sauf les supporters qui seront certainement habillés à Mazembe, mais il y aura trois drapeaux. Le drapeau de la FIFA, le drapeau de l'Algérie, et les drapeaux de la RDC. C'est-à-dire que c'est la RDC à l'honneur et non Mazembe. Qu'on arrête de politiser l'affaire, c'est juste que il faut que tout le monde soutienne Mazembe, qu'on soit des Vita Club, qu'on soit des DSMP, Don Bosco, toutes les autres équipes de
tout
la
capable
RDC,
Lima.
Tout capable et Lima, toutes les autres équipes, tous les supporters bien sûr, qu'on soutienne Mazembe, parce que c'est la RDC à l'honneur.
D'accord, merci. Alors Gaston Mouchid, vous êtes présentement à Lubumbashi, expliquez-nous, dites-nous un peu rapidement, quelle est l'ambiance qui règne actuellement à la veille de ce match?
Disons que je viens de Kinshasa, et je viens d'atterrir à l'aéroport de Luano, mais déjà à l'aéroport j'ai vu que les gens sont mobilisés, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont habillés en maillot de Mazembe pour pouvoir soutenir, ils sont en noir et blanc. J'ai croisé quelques députés provinciaux qui sont aussi derrière l'équipe, qui estiment par leur comportement ou par leur accoutrement porter l'étendard de l'équipe très haut. Comme vous le savez, c'est quand même un grand match, c'est un match qui va davantage donner à la République démocratique du Congo la chance de ne pas seulement être un pays économiquement fort ou encore un scandale géologique qui a de minerais et pas autre chose, mais en allant de l'avant, l'équipe de Mazembe donnera à la République démocratique du Congo le prestige dont il a besoin.
Finalement, vous donnez quelle chance au tout-puissant Mazembe après le match aller qui s'est bien soldé pour l'équipe louchoise?
La chance, elle est du côté de Mazembe parce que l'équipe s'est bien comportée en Algérie. Mais cela ne doit pas nous permettre de dormir sur nos lauriers. Je vais demander à l'entraîneur Carteron et éventuellement à l'équipe dirigeant ou staff dirigeant de Mazembe de redoubler d'efforts. Parce que nous avons bien sûr une probabilité supérieure à 50%, mais il ne faudrait pas qu'on croise les bras. Ces gens-là sont capables de venir tout faire poirer, c'est-à-dire qu'ils peuvent, en essayant de nous attaquer avec brutalité, nous faire attraper des cartes rouges ou déséquilibrer complètement les matchs. Donc nous devons être disciplinés et les joueurs doivent être disciplinés, les supporters aussi, de manière à ce qu'on puisse aider l'équipe à aller de l'avant et à gagner. Nous ne pouvons pas nous comporter comme en Algérie où les supporters se sont mal comportés contre les joueurs de l'étranger qui étaient les joueurs de Mazembe. Je crois que nous accueillons cette équipe ici. Nous, s'il faut venger ce qu'ils ont fait, c'est leur donner des buts, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 buts, au lieu de nous comporter en indiscipliné. Je crois qu'il faut qu'on soit très prudent parce que la victoire peut venir, mais si on ne fait pas attention, nous risquons de la perdre.
Alors en même temps, Gaston, pour finir rapidement, on sait quand même que le tout-puissant Mazembe est amputé d'un joueur quand même important, il s'appelle Kalaba, si je ne me trompe pas, il avait marqué le but et il a obtenu un carton rouge. Est-ce que ça ne va pas déséquilibrer le tout-puissant Mazembe?
Je ne suis pas sûr, parce qu'après avoir marqué les premiers buts, Mazembe a marqué un autre but. Et aujourd'hui, déjà on s'est entraîné pendant tout ce temps sans Kalaba, parce qu'il ne va pas jouer, et donc l'équipe se comporte très bien, surtout qu'à l'étranger, elle s'est bien comportée.
D'accord, merci beaucoup. Et avant de commencer notre thème de ce soir, nous avons une page noire dans notre tribune de presse de ce soir. C'est la radio communautaire libre de Kolwezi, RCL, qui est en deuil. Elle venait de perdre son rédacteur en chef, Léon Mwenzezaki, qui s'est éteint mercredi des suites d'une courte maladie. Il a été journaliste du réseau des correspondants des radios communautaires de Radio Kapi pendant une longue période et a aussi été notre collaborateur. Léon Mwenze a signé plusieurs reportages depuis la ville de Kolwezi et Radio Kapi à travers la tribune. Une de presse présente à sa famille ses condoléances les plus attristées. Alors, Gaston Mouchid, vous l'avez connu personnellement. Que retenez-vous de cette personne?
Léon Mwenze, moi j'ai dirigé la radio communautaire libre et Léon Mwenze, depuis 1997 jusqu'à sa mort, était rédacteur en chef de cette radio. Et donc c'était un bon collaborateur parce que quand moi j'ai dirigé RTL, avec la rédaction, on a très bien collaboré et il s'est dirigé, il s'est lidé une équipe de rédaction, c'est quelqu'un qui n'est pas conflictuel. Jusque maintenant, tout le monde est en train de pleurer sa mort parce qu'il laisse un grand vide dans le monde, non seulement de la radio communautaire libre, mais plutôt dans le monde de journalistes en général. L'UNPC, Gualaba est en deuil parce que c'était quelqu'un qui a bien piloté la rédaction de la radio communautaire libre, qui est par plusieurs fois la meilleure rédaction en radio de la ville de Kolwezi.
Merci. Alors Thierry Bongo, quel hommage pouvez-vous rendre à cette personne?
En fait, nous nous rendons un vibrant hommage à Léon Mwenze qui s'ajoute à la liste de nombreux confrères qui ont perdu la vie dans ce pays, certains dans l'exercice de leur métier, d'autres des suites de maladies comme c'est le cas de Léon Mwenze, mais c'est aussi une occasion pour lancer et interpeller toutes les associations, toute la corporation à pouvoir voir un petit peu le niveau, ou plutôt voir comment on peut redresser le niveau social du journaliste. Il vous souviendra que nous avons été gratifiés à une certaine époque de 2 millions de dollars dans un budget. Et aujourd'hui, c'était, je crois, un vœu qui n'a jamais été réalisé. On n'a jamais eu ça. Jusqu'à présent, la situation sociale du journaliste reste précaire. Un travail, un métier très noble, un métier qui accueille beaucoup de gens, un métier qui façonne des hommes et qui malheureusement ne rend pas suffisamment à ces acteurs que sont les journalistes. Et donc c'est une occasion pour nous aussi de penser à tous ces frères qui sont partis et de jeter quand même un regard sur le travail que nous fournissons.
Alors Jean-Jeff, un mot à l'endroit de la famille de notre confrère disparu.
Oui, c'est vrai, c'est toujours un mal lorsqu'on perd une personne. Je ne vais pas dire ce que Thierry vient de dire ici. Je vais juste souhaiter mes condoléances à sa famille biologique, mais aussi à toute la corporation, parce que c'est un des nôtres qui nous a quittés.
Merci beaucoup et nous voici rentrés dans le premier thème de la soirée. La tenue du dialogue politique se précise. Dans les couloirs du Palais du Peuple, les députés nationaux évoquent la date du 15 novembre prochain. Ce rendez-vous politique devra se tenir à Kinshasa ou dans la ville de Mwanda au Congo central. En attendant la confirmation, des élus de la majorité et même certains de l'opposition pensent que ce dialogue apportera des réponses à plusieurs préoccupations importantes de l'heure. Des bouches à oreilles, nous apprenons que l'ordre du jour est déjà évoqué et ce sont les précisions qu'ils nous donnent ici. Mimi Ngumba Mulongo.
Le dialogue politique initié par le chef de l'État et soutenu par la majorité présidentielle, mais aussi par certains partis politiques de l'opposition, notamment l'UDPS. D'après des députés nationaux contactés, 100 personnes sont attendues dans ces travaux qui ne devront pas dépasser 2 semaines. Ce dialogue, affirment les mêmes sources, connaîtront une médiation étrangère. Les noms de Saïd Djinit, envoyé spécial des Nations Unies dans les Grands Lacs et même la MONUSCO sont cités. Quant à l'ordre du jour, les élus interrogés ont évoqué le calendrier électoral, l'enrôlement de nouveaux majeurs, la sécurisation de tous les processus électoraux, les budgets des élections. À cette liste s'ajoute la restructuration de la CENI et probablement celle de l'équipe gouvernementale. Entre-temps, signalons qu'à Kinshasa, la dynamique de l'opposition, une plateforme regroupant plusieurs partis politiques, rejette cette initiative. Selon ses opposants, qui sont en convention depuis hier mercredi, le dialogue ne pourra que favoriser le glissement.
Merci Mimi Ngumba Mulongo. Mais un autre point de vue, c'est l'opposant Clément Kankou, député national, qui souhaite qu'une table ronde soit organisée au courant de ce mois de novembre toujours, où ne sera évoquée que la question du processus électoral. Et si vous venez de nous prendre en cours, sachez que la tribune de presse de ce vendredi a pour invité Thierry Bouongo, journaliste indépendant basé à Kinshasa, Jean-Jeff Mwanza, directeur général de l'agence de presse Vision Info, et Gaston Mouchid, directeur général de la radio-télévision Manika, une télévision qui émet à Kolwezi dans l'ex-province du Katanga. Alors Thierry Bouongo, quelle lecture vous faites de ce dialogue qui se précise finalement ?
Qu'on l'appelle dialogue, qu'on l'appelle forum, qu'on l'appelle convention, qu'on l'appelle conférence, le plus important pour nous c'est de voir que les fils d'un même pays puissent se mettre autour d'une table pour se regarder droit dans les yeux et discuter des questions clés qui comptent pour la nation. À mon avis, le principe du dialogue est un principe important en démocratie et pour notre jeune démocratie à nous, on ne peut avancer sans dialoguer, sans se parler. C'est extrêmement important, c'est lié. Rejeter le dialogue, c'est rejeter totalement aussi toute forme d'évolution démocratique. Ça, c'est mon point de vue. Mais les uns et les autres peuvent avoir des avis partagés et ces avis, les arguments qui confortent leur avis ne sont pas faux, totalement faux. Il y a ce climat de méfiance totale dans la classe politique. On n'a pas confiance à l'interlocuteur et on a toujours l'impression que celui qui est en face de nous fait des manœuvres pour dribbler, pour se retrouver, pour un certain positionnement. Et dès lors que ce climat-là est entretenu par certains actes et certaines paroles de politique, il est difficile de voir un dialogue dans ce climat actuel aboutir. Seulement, il y a deux facteurs importants qui comptent pour que ce dialogue puisse réussir, c'est le facteur temps et le facteur aussi du contenu qu'on a donné à ce dialogue. Alors, on a parlé de deux semaines pour que ça se tienne, mais ça va se tenir quand ? Si ça commence le 15, c'est bon, mais si ça commence après le 15, tirer les choses en longueur, on ne va pas en faveur de la réussite de ce dialogue.
Mais vous êtes d'accord avec la majorité lorsqu'elle affirme que ce dialogue apportera des solutions, plusieurs solutions aux préoccupations des leurs?
Je ne peux pas prendre position vis-à-vis de la majorité parce que le dialogue n'a pas encore eu lieu. Le terme des références de ce dialogue ne sont pas encore connus. On est tous en train de spéculer parce que l'autorité qui va convoquer ce dialogue ne s'est pas encore totalement prononcée. Et de sources que nous entendons, les avis sont, vous l'avez vous-même compris à travers le reportage de Mimi Ngumba, oui, que le contenu même qu'on va donner à ce dialogue n'est pas encore communément acquis. Certains parlent des élections, d'autres parlent d'un nouveau gouvernement, d'autres parlent de glissement. Donc vous sentez que la classe politique en soi n'est pas unanime sur le contenu à donner à ce dialogue. Pour ma part, je pense que vu les enjeux de l'heure, un dialogue serait important s'il parle des réels problèmes de la population, des réels problèmes de l'heure qui sont les élections, l'alternance et comment garantir justement à ce que la respiration démocratique de notre pays se fasse normalement.
Alors Jean-Jeff, la majorité soutient qu'il puisse y avoir un dialogue pour résoudre les problèmes de l'heure, les questions de l'heure. Comment vous analysez cela?
Je pense qu'il faut d'abord se poser la question pourquoi le dialogue sera convoqué. On convoque le dialogue parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un ça ne va pas. Il y a une crise. On ne peut pas avancer. On ne peut pas évoluer. On doit avoir les élections l'année prochaine. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour avoir des bonnes élections?
Donc pour vous, le dialogue sera convoqué pour résoudre la question des élections?
Normalement, le dialogue sera convoqué pour résoudre la question électorale. C'est vrai que du côté de l'UDPS, on continue à parler de l'impérium. Mais je me pose la question si on va évoquer encore l'impérium à une année de la fin du mandat de Joseph Kabila. C'est-à-dire qu'on va au dialogue simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne faut pas que nous puissions encore avoir des élections chaotiques comme en 2011. C'est vrai qu'en 2011, tout le monde était d'accord que les conditions n'étaient pas réunies, mais on voulait à tout prix organiser les élections. Ngoï Mulunda a dit, accordez-nous le temps, on a dit non, il faut élection. S'il n'y a pas élection, c'est le chaos. On est allé aux élections, nous connaissons tous la suite. Et c'est justement pour ne pas retourner dans les mêmes conditions, avoir les mêmes problèmes qu'en 2011 où il y a eu élection, mais nous étions en tout cas, je ne sais pas si je pourrais appeler cela l'impasse, nous étions c'est comme s'il y avait un problème au pays, un problème sérieux où personne ne pouvait circuler. Nous étions en ville pour arriver.
Bref, le pays était paralysé.
Le pays était paralysé. Alors, on ne peut pas accepter que nous puissions aller aux élections en 2016 qu'à la publication des résultats, nous puissions connaître le même problème.
Mais comment vous analysez finalement la position de la dynamique de l'opposition qui estime que, qui voit dans la tentative de la majorité une espèce de glissement carrément?
Moi, je pense que la position de ceux, des amis du dynamique ou bien le politicien, l'opposition de la dynamique,
SID, MLC, UNC,
moi, je les considère comme ennemis de la nation. Permettez-moi de les dire. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ces gens disent qu'il faut élection. Nous voulons à tout prix que Kabila parte en 2016. Mais on vous dit que nous avons deux problèmes. Il y a un problème des moyens qui se pose. Nous devons nous mettre autour d'une table pour discuter, trouver des solutions qui permettront à ce que les élections soient organisées dans les bonnes conditions.
Mais vous, c'est la confiance qu'a évoqué ici Thierry.
Thierry Bongo, oui. Mais est-ce que 55 ans après l'indépendance, on ne peut toujours pas se faire confiance? On attendra jusqu'à quand? Faudra-t-il toujours qu'à cet âge, nous puissions chercher à ce que les personnes venues d'ailleurs viennent régler nos problèmes? Non. Si tu ne veux pas que je te fasse confiance et que moi non plus je ne dois pas te faire confiance, on ne va plus cohabiter. Il faut que la République démocratique du Congo soit encore colonisée à nouveau. Si réellement nous disons que nous sommes des leaders, nous pouvons prendre le destin de notre pays en main. Faisons-nous confiance. Mettons-nous autour d'une table. Trouvons des solutions à nos problèmes.
Mais avec des faits qui se suivent, qui se succèdent là, est-ce que ce n'est pas des armes qui sont finalement données à cette dynamique de l'opposition pour justifier leur position que on n'a pas besoin de dialogue?
Chers confrères, je pense que c'est autour d'une table qu'on peut régler tout ce problème. Il ne faut pas que je puisse te prêter des intentions, dire que tu m'invites chez toi, tout simplement parce que tu veux me corrompre, tu veux que je puisse laisser le problème tel que tu le veux, sans que je puisse t'écouter, sans que je puisse t'entendre. Il faut qu'on se mette autour d'une table. J'ai vu aux concertations nationales, Clément Kankou, qui a pris part, claquer la porte, parce qu'il s'était rendu compte que les choses pour lesquelles il s'attendait, ce n'est pas ce qu'il a trouvé aux concertations nationales. Donc, moi je ne trouve pas qu'il faille, n'est-ce pas, prendre des distances avant même la convocation de ces dialogues. Il faut d'abord accepter les dialogues, se mettre autour d'une table. C'est alors que vous direz à la population, nous vous avions dit que ce dialogue sera convoqué pour tel ou tel autre sujet. Voici ce que nous avons trouvé au dialogue.
D'accord. Alors, Gaston Mouchid, vous, comment vous avez analysé la proposition du dialogue telle que la majorité présidentielle l'entend?
Disons que dialoguer en soi, c'est une très bonne chose. Hein. Nous sommes des Africains. L'histoire nous montre que les problèmes en Afrique se traitent autour d'une table. Et quand on met les problèmes sur la table, on essaye de mettre les divergences de côté. Et il y a moyen de trouver une solution aux problèmes qui se posent dans le pays. Vous savez que le pays aujourd'hui est confronté à plusieurs problèmes politiques. Il est donc impératif qu'on dialogue. Mais aussi, les uns et les autres devraient mettre de l'eau dans leur vin. Si mon co-débatteur a dit que les opposants qui ont refusé les dialogues, c'est eux qui sont les ennemis de la République ou de la paix, je dirais oui et non. Non, pourquoi? Parce que au sein de la majorité, il y a un groupe de gens qui ont vu qu'il y avait des problèmes et qui voulaient qu'on en parle. Ils ont écrit une lettre et au lieu d'en parler, la majorité a... C'est-à-dire qu'il y a un manque de dialogue déjà au sein de la majorité. Si on ne peut pas dialoguer au sein de la famille restreinte, comment est-ce qu'on peut dialoguer au sein de la famille élargie? Il se pose un problème de point de vue. Quand on veut dialoguer, il faudra écouter aussi l'autre, même si son point de vue est contradictoire. Mais au choc des idées, jaillit la lumière. Nous espérons qu'au cours de ces dialogues, on ne va pas y aller avec des idées figées. Parce que l'histoire démontre que parfois, il y a des gens qui organisent de réunions comme ça avec un seul objectif, de faire passer leurs idées. C'est ça qui devient pas intéressant. Mais si c'est pour dialoguer de manière à ce qu'on trouve une solution au problème qui nous préoccupe, je crois que c'est bien de dialoguer. Mais aussi, je vais demander à l'opposition de ne toujours pas jouer à la politique de la chaise vide. Il faut participer à ces dialogues et donner les points de vue de manière, s'ils ont de bonnes idées, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le mettre sur la table et discuter de manière à trouver des solutions au problème? Parce que ne pas participer, et ça sera jouer la politique de la chaise vide. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple de Brazzaville, où l'opposition a dit nous n'allons pas, nous, voter contre le référendum, ou nous n'allons pas voter à ce vote référendaire. Résultat des courses, les gens de la majorité ont voté et aujourd'hui, la Constitution va être révisée. Ils peuvent monter, ils peuvent descendre, mais les carottes sont cuites. Et donc, j'estime qu'au lieu que demain, après les dialogues, que l'opposition commence à se plaindre comme quoi nous n'avons pas été associés et que nos points de vue n'ont pas été pris en considération, je pense qu'il faut qu'ils aillent aussi dialoguer et que la majorité aussi ne se prenne pas et ne se mette pas en position de donneur de leçons.
Alors,
on discute et qu'une solution soit trouvée.
Alors, comment vous analysez la position de Clément Kankou qui souhaite qu'il y ait une table ronde exclusivement pour parler du processus électoral? On sait aujourd'hui que la CENI est quand même fragilisée, le président et les vice-présidents ont démissionné. On propose aujourd'hui Corneille Nangaa à la tête de la présidence de la CENI et Norbert Bashengezi qui a été proposé à la vice-présidence de la CENI par le PPRD. Comment vous analysez finalement cette proposition du député pour parler exclusivement de ce processus électoral?
Oui, je pense que Clément Kankou a donné un point de vue. Ce point de vue est valable parce que vous avez lu la revue de presse et on a senti que comme l'UDPS et la majorité sont en train de lancer ces dialogues, il y aura partage des pouvoirs. Ça peut être une spéculation, mais si jamais c'est pour se partager des pouvoirs, ces dialogues-là n'ont pas de raison d'être. Le dialogue, là, c'est pour régler les problèmes et éviter que la République ne puisse pas aller de l'avant. Nous avons besoin de la paix, que ce soit la majorité ou l'opposition. Les Congolais ont besoin de la paix. Il faudra mettre ensemble le sujet des divergences et les traiter sans que ça soit une occasion pour les uns ou les autres de prolonger le mandat en dehors du délai constitutionnel.
Alors, entre-temps, parler de la question, de parler exclusivement du processus électoral, ça souligne aussi la révision de ce calendrier. Thierry Bongo, est-ce que vous pensez que la proposition de Clément Kankou vient en point nommé?
Je pense que Clément Kankou touche justement le point qui est le plus l'épicentre justement du problème, parce que qu'on se le dise, tous les conciliabules qui se font une année avant les élections ne peuvent pas éviter la question électorale, parce que sinon à quoi bon avoir un dialogue, à quoi bon avoir des discussions si l'imminence des élections ne pose pas problème. Je crois que Clément Kankou a totalement raison de poser cette question, mais il faut savoir aussi que la question électorale est liée à beaucoup d'autres questions. Il faudrait voir dans quel contexte ces élections doivent se faire, la question question de l'autorité qui doit organiser ces élections. Hier, on avait le nom de Norbert Bashengezi qui devait prendre la vice-présidence de la CENI. Ce sont des politiques. Or que la procédure, plutôt le processus de la CENI, c'était de devenir un organe purement technique d'organisation des élections. On met plus de politisation. Je sais que les personnes qui ont été citées sont des grands politiciens, des stratèges de la majorité. Et par rapport à leur carrure politique, cette place-là n'est pas une place innocente.
Mais Thierry, est-ce que ça, ce n'est pas la raison pour laquelle la dynamique de l'opposition ne veut pas aller à ces élections pour cautionner finalement ce glissement entre guillemets?
La dynamique de l'opposition dans le fond n'a pas totalement tort, et je m'inscris en faux à l'adjectif que Jean-Jeff leur a collé. Ils ne sont pas ennemis de la nation parce que les arguments qu'ils proposent ne sont pas totalement faux. Seulement, je ne suis pas d'accord avec eux dans le sens que si problème il y a, ce n'est pas dans la rue que ça doit être réglé.
Comme Gaston le dit.
Si problème il y a, il faut nécessairement, nous sommes africains comme Gaston l'a dit, que nous puissions nous mettre autour d'une table pour discuter. Et là, je reviens sur un point important, je l'avais dit tout à l'heure, le dialogue ne peut réussir que si les paramètres de temps et de contenu sont bien organisés, bien ficelés. Et je pense qu'avant même ce dialogue, il est nécessaire qu'on puisse avoir des consultations ou un pré-dialogue pour fixer l'ordre du jour afin que chacun puisse y adhérer. Et sans adhésion, quel que soit le dialogue que vous ferez, ça ne va rien porter. Nous avons vu les concertations nationales, un forum formidable. Moi, je l'ai suivi jour par jour. Il y a eu des grandes résolutions qui en sont sorties. Mais le faible taux de participation, plutôt le faible taux de représentativité autour de ce forum a fait qu'aujourd'hui, les résolutions des concertations nationales sont restées lettres mortes. Alors, il ne faudrait pas qu'on puisse continuer à produire intellectuellement pour qu'on puisse se caser dans les tiroirs. Il faut qu'on puisse produire pour que ça puisse changer justement cette société. Sinon, à quoi bon font-ils la politique ?
Alors, Jean-Jeff, la position de Clément Kankou, est-ce qu'elle vous semble plus réaliste par rapport à tout ce que les amis viennent de dire ?
Je pense qu'elle est bonne, mais seulement là où je ne la trouve pas trop réaliste, c'est pourquoi encore avoir un autre forum avant les dialogues si les questions électorales seront évoquées au cours des dialogues.
Non, mais Clément Kankou propose une table ronde exclusivement pour parler de la question électorale.
C'est-à-dire qu'il veut que ces dialogues...
Parce que le problème de leur entretemps, c'est la question électorale.
C'est-à-dire qu'il veut que ces dialogues se basent uniquement sur les questions électorales.
C'est ce qu'il veut.
S'il en est ainsi, je suis d'accord avec lui, parce que normalement, ces dialogues seront convoqués parce qu'on veut avoir des bonnes élections l'année prochaine. Je ne vois pas où Clément Kankou aura tort. Mais je voulais revenir sur ce que j'avais dit sur la dynamique de l'opposition. Je les qualifie d'ennemis de la nation tout simplement parce que ils savent qu'il y a un problème. Thierry Bongo l'a dit. On ne peut pas régler ces problèmes dans la rue. S'il faut les régler, c'est autour d'une table. Mais ils savent qu'il y a un problème. Mais ils ne veulent pas venir autour d'une table pour en discuter. Ils veulent qu'on les résout à quelles conditions, à quelle occasion. C'est là où moi je me dis qu'ils sont ennemis de la République. Il faut qu'ils acceptent ces dialogues et comme ça, ça sera le seul moyen pour résoudre nos différents problèmes.
Et pour vous, le seul moyen, c'est la seule solution pour aller aux élections apaisées, c'est le dialogue.
Pour l'instant, c'est les dialogues. Parce que, pourquoi c'est les dialogues ? Nous sommes allés aux concertations nationales. On avait un sérieux problème avec l'Est du pays où l'Est était entre les mains de la rébellion. Juste après les dialogues, les participants se sont mis d'accord sur certains éléments et on a réussi à chasser le M23. Et aujourd'hui, nos populations de cette partie de la République vivent en quelque sorte en paix, même s'il y a encore quelques poches d'insécurité qui sont enregistrées par-ci par-là. Ça dit que les dialogues est un moyen justement qui devra permettre à notre classe politique et notre classe sociale de résoudre ces différents problèmes, notamment les questions électorales. Là où je ne suis pas d'accord avec la majorité, c'est le fait qu'on veut faire de ces dialogues une affaire du PPRD-UDPS. On ne va pas résoudre ce problème. Il faut que ce soit un dialogue inclusif où tout le monde devra prendre part.
D'accord, merci. Voici notre deuxième thème de la soirée, un séminaire de cadrage, démission et renforcement des capacités en faveur des commissaires spéciaux des nouvelles provinces et leurs adjoints a été ouvert à Kinshasa. Dans sa communication, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a affirmé que ce séminaire vise à communiquer aux pionniers de la gestion des nouvelles provinces la vision de la révolution de la modernité pour que ces entités deviennent le socle de développement du pays. Les gouverneurs des provinces non démembrées étaient aussi associés à ce séminaire. Mais quelle est la mission de ces commissaires spéciaux? Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur répond au micro d'Innocent Olinga.
Il s'agira plus concrètement des communications ci-après. Mission confiée aux commissaires spéciaux par les gouvernements de la République, les enjeux de la décentralisation et le rôle du chef coutumier, les rétrocessions et finances publiques provinciales, les infrastructures de base selon la vision de la révolution de la modernité, les perspectives d'un habitat adéquat avec les matériaux locaux, l'électrification rurale, les recettes minières, les divisions de l'administration publique indispensables et prioritaires, avec les expériences de l'enseignement primaire et secondaire, de la santé publique, de l'agriculture et du développement rural. Atelier sous le contrôle de l'acte administratif des finances et gestion du personnel des autorités territoriales par l'inspecteur général de la territoriale, l'inspection générale de finances, la Cour des comptes, le secrétariat général à l'intérieur. La cartographie des conflits communautaires, les valeurs et patrimoine de la citoyenneté en République démocratique du Congo.
Thierry Bongo, comment vous analysez ce séminaire ?
Bon, je suis de ceux qui pensent que les commissaires spéciaux auront fort à faire parce que déjà, le contexte de leur arrivée prête à beaucoup de confusion. Ce sont des personnes dont le cadre de leur fonction ne dépend que l'ordonnance présidentielle et leur mission ne dépend que l'ordonnance présidentielle. Leurs responsabilités constitutionnelles ne sont pas totalement établies. Et je vois là des personnes qui ne disposent pas d'une certaine légitimité constitutionnelle agir au nom du gouvernement en territoire souvent très hostile.
Mais les missions qui leur sont attribuées, telles que là énuméré le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sont-elles claires?
Les missions sont totalement claires. On ne peut pas en dire plus. Seulement, c'est que on voit là que c'est une fois de plus la mainmise du gouvernement central sur la gestion des provinces, et ça ne va pas pour favoriser l'élan constitutionnel qui voulait voir ces provinces s'autogérer. Bon, c'est un fait que nous constatons. Ce séminaire, espérons, va aider ces personnes de pouvoir acquérir des moyens de gestion plus orthodoxes, parce que ce qui mine les provinces aujourd'hui, malgré le démembrement actuel, c'est la gestion. Hein, vous avez vu que depuis l'installation, enfin la mise en place de cette nouvelle constitution, il y a eu beaucoup de problèmes liés à la gestion dans les provinces. Il y a eu ces problèmes de rétrocession, il y a eu le problème de financement des entités territoriales décentralisées. Nous avons vu des cas où des gouverneurs ont été pris à partie par leur assemblée provinciale à cause justement des problèmes de gestion. Nous espérons que ces personnes qui malheureusement ont moins de pouvoir que les gouverneurs et qui sont plus liées au gouvernement central pourront faire preuve de meilleure gestion.
Donc pour vous, le grand défi, c'est la gestion.
Le plus grand défi, d'ailleurs, c'est la gestion. Il n'y a pas plus grand défi pour eux que cela. Parce que tout ce qui va se faire là-bas, projet de développement et autres, demandera ce qu'ils puissent avoir à leur tête ou à une tête politique suffisamment rompue dans la gestion. Mais malheureusement, nous constatons aussi que parmi ces commissaires spéciaux, il y a des gens qui n'ont aucune expérience en termes de l'administration, encore moins en termes de gestion publique. Bon, ils vont partir là-bas à l'école, apprendre, en même temps que ces provinces créées, et ce séminaire, s'il est bien assimilé, va peut-être les aider à 10% à pouvoir rehausser leur niveau.
Alors, Jean-Jeff, il y a eu aussi dans ce séminaire les gouverneurs élus des provinces non démembrées. Comment vous expliquez la présence de ces gouverneurs élus des provinces non démembrées?
C'est tout simplement parce qu'ils veulent évoluer ensemble avec les autres. Nous avons 26 provinces désormais.
Est-ce que ce ne sera pas finalement la même mise du gouvernement central telle que l'évoque...
Exactement. D'abord, ces commissaires spéciaux n'auront pas de gouvernement provinciaux. Ils sont un peu limités. Ils vont travailler mains liées. Je me demande comment est-ce qu'ils pourront, n'est-ce pas, mettre en œuvre leurs projets, leurs programmes, et surtout que pour certains, leurs provinces, leurs nouvelles provinces, n'ont pas des moyens de communication.
Est-ce qu'ils ne seront pas dictés par le gouvernement central?
Mais ils seront dictés, ils vont travailler sous l'impulsion, permettez-moi de le dire, comme on a souvent l'habitude de le dire, du gouvernement central. Ils sont mains liées parce que, pour certains d'ailleurs, ils n'ont aucune expérience, ils n'ont jamais géré, les autres viennent de nulle part, permettez-moi de le dire. En tout cas, je doute fort, et surtout qu'ils ne sont là que pour 6 mois, selon ce qui a été dit, je doute fort qu'on attende un meilleur résultat.
Donc pour vous, vous estimez, Thierry pense que le plus grand défi c'est la gestion, et vous doutez carrément de la réalisation de leurs missions qui leur sont assignées.
Je doute carrément de leurs missions parce que je me demande, pour certains, ils n'ont jamais travaillé, et aussi surtout qu'ils auront la même mise du gouvernement central. Les anciens d'ailleurs ont connu un sérieux problème avec les ETD, la rétrocession. Qui était un sérieux problème. Si ceux qui, entre guillemets, étaient quand même forts, puissants, ont connu ce problème, et pour ceux qu'on a pris juste de quelque part, petit, viens, on te met là-bas, tu n'as aucune expérience, comment ils vont s'en sortir?
Mais en même temps, la plupart de toutes ces...
Il y a des gouverneurs qui y ont réussi à faire quelque chose par leurs propres moyens. Et pour la plupart de ceux qui viennent d'être nommés, en tout cas... Ils ne sont pas forts financièrement. Comment vont-ils s'en sortir?
Alors, Gaston Mouchid, comment vous avez analysé à votre niveau ce séminaire des commissaires spéciaux?
Bon, disons qu'il y a à boire et à manger. Hein. Ce n'est pas dans 2 jours ou 3 qu'on va apprendre à quelqu'un l'administration. Le problème, c'est lequel? Pour que ces commissaires spéciaux quittent leur province ils sont quand même arrivés à Kinshasa et le gouvernement avait de fonds pour pouvoir les accueillir et les supporter. Mais on n'a pas eu de l'argent pour organiser les élections provinciales des gouverneurs et vice-gouverneurs. Et la majorité a nommé ces gens à lui ou les gens, ces gens à elle.
Ils sont principalement les. Je disais, ils sont essentiellement de la famille présidentielle.
Oui, essentiellement de la famille présidentielle, ce qui est encore plus grave parce que déjà au sein de cette plateforme, il y a des mécontents. Ces gens-là répondront de la famille présidentielle au lieu de répondre du peuple. Et ils savent, comme on parle de la révolution de la modernité, pendant 6 mois, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Le vrai problème qu'avaient les anciens gouverneurs, c'était les problèmes de rétrocession. Kinshasa, je ne cesserai jamais de le dire, est trop gourmand. En ne donnant pas la rétrocession, en ne donnant pas le 40%, avec quoi est-ce qu'ils vont continuer les travaux de infrastructures ou de la réhabilitation ou encore ce qu'on appelle la révolution de la modernité? Est-ce qu'ils auront un doigt, ils lèveront un petit doigt pour réclamer? Je ne pense pas. C'est leur employeur. Ils ne vont pas oser le faire parce qu'ils vont se faire mettre à côté. Donc ça signifie que nous sommes dans une situation telle que ces gens-là vont faire plaisir à la majorité présidentielle ou à la famille présidentielle au lieu de faire plaisir au peuple. Et donc, du coup, ils vont aller sur terrain et comme on l'a dit, hein, certains confrères l'ont bien dit, ils vont avoir des problèmes d'aptitude. D'abord, il faut qu'ils apprennent. Il y en a, ils sont technocrates, il y en a qui peuvent bien le faire, mais comme ils n'auront pas de gouvernement, prenons les Lualaba, ma province. Les Lualaba, les Kolwezi à Moussoumba, c'est 750 km², et c'est 700 km de route, et la route est complètement délabrée. Bon, s'il faut que ces gens-là circulent, ils n'ont pas de gouverneur, ils n'ont pas de ministre, donc je crois qu'il va y avoir un problème sur terrain. Mais, qu'à cela ne tienne, ils vont venir au lieu qu'on ait un vide juridique ou administratif, parce que ça fait quand même longtemps, hein, depuis que ces histoires ont commencé au mois d'avril, jusque maintenant, il n'y a pas de grandes décisions qui sont prises dans les provinces. Ça signifie que l'État ou l'administration de l'État est au point mort, et ça n'avance pas beaucoup. Qu'ils viennent d'abord, qu'ils travaillent, et on va les juger au bout de 6 mois, si jamais on n'aura pas l'idée de continuer leur mandat.
Mais vous êtes presque en train de douter carrément, ou vous avez vous émettez certaines réserves quant à la réalisation des missions qui leur sont assignées. Le Premier ministre a dévoilé la vision de la révolution de la modernité pour que ces entités deviennent le socle de développement du pays. Comment est-ce qu'ils pourront procéder d'après vous?
Oui, mais pour que ces entités soient le socle du pays, il faut bien qu'il y ait de l'argent. On ne peut pas développer un secteur, on ne peut pas développer une région si on n'a pas l'argent, si on n'a pas le moyen de sa politique. Moi, je pense que Kinshasa devrait rétrocéder de l'argent dû aux provinces, de manière qu'avec ces fonds, ils soient en mesure de faire ce qu'on attend d'eux.
Mais est-ce qu'en 6 mois, ils sauront faire ça?
Comme il s'est comporté il y a longtemps, en ne donnant pas de moyens à la base, je crois que c'est des discours vains.
Mais est-ce qu'en 6 mois, ils sont capables de relever ce défi?
Je ne suis pas de cet avis. Je pense que les 6 mois d'abord, vous connaissez qu'il y a certaines entités qui n'ont même pas de sièges. On ne sait même pas où est-ce que ces conseillers vont se réunir, où est-ce qu'ils peuvent siéger, où est-ce qu'ils vont habiter. Donc les 2 premiers mois ici, ce sera l'installation, connaître les terrains, ainsi de suite. Et après, commencer à travailler, dans les 6 mois, c'est à mon avis pas trop beaucoup, hein, c'est pas beaucoup pour un bilan. Mmh. Ils n'ont pas beaucoup de temps et j'espère qu'ils auront l'argent pour faire leur politique. Mais je sais aussi que ça fait 5 ans, on a passé 4 ans, qu'il n'y a toujours pas de rétrocession à 40%. Donc si ça ne se fait pas comme ça, moi je suis de l'avis que on n'aura pas récolté ce qu'on cherche. À part peut-être qu'ils ont une mission d'avoir un peu de sous pour être compétitifs aux élections prochaines.
Ce sera aussi votre conclusion. Merci Gaston Mouchiz. Alors, Jean-Jeff Mwanza, est-ce qu'en 6 mois on peut relever le défi de la révolution de la modernité? Rapidement, en guise de conclusion.
Même si on est optimiste, je pense non. En tout cas, en 6 mois on ne peut rien faire. C'est comme l'a dit le confrère depuis Lubumbashi, le confrère Gaston. Il faut se dire que ces gens auront d'abord 2 mois pour s'installer, parce que pour certains, ils n'ont même pas des bureaux. Le 3e mois, ça sera justement pour prendre connaissance du terrain. Et les 3 mois qui restent, ça sera pratiquement impossible. Mais ce que je voulais juste rectifier quelque chose. Vous avez dit ici que les commissaires spéciaux sont tous de la famille présidentielle. J'en connais quelques-uns qui sont des partis de l'opposition. Je peux citer Robert Koloba qui est quand même d'un parti de l'opposition.
Merci beaucoup. Alors en guise de conclusion, Thierry Bongo.
Je pourrais juste te dire que ces 6 mois, ce sont pratiquement les 12 travaux d'Hercule pour ces gouverneurs. Mais quelque part, ce facteur temps enjoint les avis de l'opposition qui estiment que ce sont des commis du gouvernement central en province qui vont rester au-delà de 6 mois et peut-être même au-delà d'une année.
Faciliter le glissement.
Voilà, justement, c'est ça à peu près. Et ce sont des personnes qui vont travailler en toute liberté parce qu'ils n'auront pas d'organe de contrôle, pas d'assemblée provinciale. Je suis de ceux qui pensent que en vouloir toujours gérer la République dans le conjoncturel, on tombe dans de tels délits, et c'est vraiment un délit constitutionnel de faire ces commissaires spéciaux.
Merci beaucoup, et c'est la fin de la tribune de presse. Jean-Claude Thial a été à la prise de son. Kéline Kout a coordonné cette édition sous la supervision de Pelé Kipé Lamondo. Derrière ce micro, Berry Franklin Luchaka qui vous a accompagné. Si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net. En même temps, vos remarques et vos suggestions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à dec@radiocapi.net. Excellentes conditions d'écoute sur la fréquence de la paix.